bienvenue à tous. Nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'événements couverts par la rédaction et les correspondants de RFI.
Une semaine d'actualité. Chantal Leroux.
Et pour commenter cette semaine d'actualité qui nous emmènera de Rome à Bogota, en passant par Moscou, Séoul et Washington, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Aski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueur international à l'Obs, président de Reporters sans frontières, et vous co-signez avec Pascal Blanchard et Farid Abdelwahab les années 50 et si la guerre froide recommençait aux éditions de La Martinière. Un livre-album foisonnant avec de nombreuses photos noir et blanc, quelques-unes en couleur, des affiches, des publicités et des unes de magazines de l'époque. Il y a par exemple cette photo assez saisissante du 8 mars 1953, le portrait de Joseph Staline accroché sur la façade de l'immeuble du journal L'Humanité, barré d'un drap noir, le quotidien communiste qui titre ce jour-là en guise d'épitaphe « Staline, l'homme que nous aimons le plus ». Pierre Aski, d'abord, d'où vient ce terme de « guerre froide » On n'est pas sûr de son inventeur.
Oui, mais en fait, il arrive tout de suite après la guerre, dès que les deux camps se mettent en place au cœur de l'Europe, vous avez l'armée rouge qui a libéré, entre guillemets, la partie est de l'Europe, l'armée américaine de l'autre côté, et très vite, alors c'est Churchill qui lui a donné son côté noble puisque il l'a utilisé le plus, mais il y a Orwell qui George Orwell, l'écrivain, l'auteur de 1984, qui peut réclamer la paternité de cette expression de guerre froide, qui paradoxalement a été assez chaude. Il n'y a pas eu d'affrontement direct entre les deux grands, mais cette période que l'on appelle la guerre froide, elle commence véritablement avec une guerre très chaude qui est la guerre de Corée.
Alors comment vous est venue l'idée d'établir des parallèles entre les années 50, années qui ont incarné donc la guerre froide, et l'époque actuelle?
L'idée est venue en fait de ce sentiment de répétition parfois de l'actualité, et en particulier l'année dernière, lorsque les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord ont commencé, on s'est rendu compte que d'abord, c'est quand même le petit-fils du fondateur de la Corée du Nord, donc de l'homme qui a déclenché la guerre de Corée en 1950. Kim Il-sung, et donc Kim Jong-un, son petit-fils, qui est au pouvoir aujourd'hui, qui se retrouve de nouveau au bord d'une confrontation ou d'une négociation, on verra dans la suite des événements, avec les États-Unis, et en particulier le fait que on se rend compte que il n'y a jamais eu de fin à cette guerre de Corée. En 1953, il y a eu une armistice. On a fait un accord sur la libération, les échanges de prisonniers. Mais il n'y a jamais eu de traité de paix. Et c'est une des parties de l'équation d'aujourd'hui. Donc l'idée, c'était de retrouver dans ces années 50, qui sont la matrice de beaucoup de choses que nous vivons aujourd'hui, en quoi elles sont pertinentes pour comprendre le monde dans lequel nous sommes. On a cru en 1991 que la guerre froide était définitivement terminée. On se rend compte aujourd'hui qu'elle a laissé des traces, qu'elle a des racines, qu'elle a des conséquences dont on subit encore aujourd'hui les effets.
Et vous dites qu'on a un peu oublié aussi ces années-là qui ont été extrêmement riches au niveau de l'actualité, puisque on a parlé donc tout de suite de la guerre de Corée, mais il y a aussi il y a eu le maccartisme, il y a eu la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu, il y a eu les premiers attentats du FLN en Algérie, le lancement de Sputnik. On a un peu oublié tout ça.
Oui, en fait, c'est une décennie un peu ingrate, parce que d'un côté, il y a la Seconde Guerre mondiale juste avant, qui reste omniprésente dans notre actualité, dans notre imaginaire, avec le cinéma, etc. Et après, il y a les années 60, qui sont beaucoup plus sexy, plus légères, plus voilà, on célèbre cette année mai 68, donc on est dans quelque chose de différent. Les années 50, c'est la reconstruction, c'est la fin des conflits coloniaux pour la France en Indochine, le début de la guerre d'Algérie, c'est la reconstruction surtout qui pèse sur les consciences et qui fait que la vie est pas encore très très facile dans les pays qui ont été marqués par la guerre. Donc cette décennie, on l'oublie, on passe dessus, alors qu'elle est porteuse d'événements majeurs pour comprendre la suite du XXe siècle et ce début du XXIe siècle.
Alors, depuis quand s'est-on vraiment remis à parler de guerre froide? Tout à l'heure, vous citiez la Corée, mais est-ce qu'il n'y a pas eu d'abord la crise en Ukraine?
Oui, en fait, c'est 2014, véritablement, lorsque Poutine a pris la Crimée et a annexé unilatéralement la Crimée après toutes les péripéties politiques qu'on a vécues en Ukraine, Maïdan et le changement de président, etc. C'est à ce moment-là qu'on a eu le sentiment qu'il se jouait quelque chose qui n'était pas simplement des coups à fleur et mouchetée comme dans les périodes précédentes, mais qu'il y avait une véritable crise qui se nouait aux frontières de l'Europe entre l'ancienne superpuissance soviétique qu'on avait peut-être sous-estimée et qui était en train de marquer son retour, et puis un Occident qui ne sait pas trop où il habite.
Donc ça veut dire que si les époques ont des points communs, est-ce que ce n'est pas aussi les hommes, le profil des hommes qui est identique ? C'est pour ça que vous faites ces jeux de miroir entre les dirigeants, par exemple Eisenhower, Trump, ou alors Kim Il-sung, Kim Jong-un ?
Alors, il y a beaucoup de traits physiques communs, c'est-à-dire que lorsque Xi Jinping, le président chinois, fait passe en revue les troupes pour l'anniversaire de la victoire sur le Japon, il arrive en costume Mao, enfin qu'on appelle nous le costume Mao, il est dans une voiture décapotable avec deux micros pour pouvoir haranguer les troupes, et les gens se disent « mais c'est Mao !» Parce qu'en fait, il copie intégralement le style de Mao à ce moment précis. Et on retrouve ça à plusieurs reprises. Kim Jong-un ressemble énormément à son grand-père, plus qu'à son père, et il joue de ce, comme il y a un culte de la personnalité absolument colossal sur le grand-père, il joue sur ce culte de Kim Il-sung pour légitimer son propre pouvoir. Et on a une photo, alors là, on s'est un petit peu amusé, mais elle est quand même tentante, de Gaulle et Macron, qui sont tous les deux avec les bras en l'air, en forme de V. C'est une photo célèbre de Gaulle de la fin des années 50. Et Emmanuel Macron, pendant sa campagne électorale, a repris de manière peut-être subliminale quelques images de cet homme venu d'ailleurs. De Gaulle n'était pas un homme politique. Il a pris le pouvoir. Il avait un grand projet pour la France. Ben, ça rappelle peut-être quelque chose.
Et alors, vous constatez aussi un retour des termes qu'on employait dans les années 50 comme containment, par exemple.
Oui, tout à fait. En fait, le vocabulaire n'a pas disparu. Il y a la guerre froide, le containment, c'est-à-dire le fait d'isoler un pays, de contenir sa poussée. C'était le terme qu'on employait pour l'Union soviétique à l'époque et que les Américains emploient ouvertement aujourd'hui à propos de la Chine. Donc on a ce retour d'une certaine manière de vieux réflexes. Les anglo-saxons disent les Cold War Warriors, c'est-à-dire les combattants de la guerre froide, et ils ont marqué quand même des mentalités.
Alors, on reviendra tout à l'heure, Pierre Aski, sur votre livre, mais je vous propose de commencer cette évocation de la semaine avec celui qui en a été le héros en France, Mamoudou Gassama, ce jeune Malien qui, le week-end dernier, a escaladé à main nue la façade d'un immeuble parisien pour sauver un petit garçon de 4 ans suspendu à un balcon dans le vide. Mamoudou Gassama, passé en quelques minutes de migrant sans papier à héros, reçu lundi à l'Élysée par Emmanuel Macron, avant un retour triomphal à Montreuil, où il vit avec son frère dans un modeste foyer pour migrants. Reportage Stéphane Lagarde.
Des bravos, des applaudissements et des Maliens de Montreuil fous de Mamoudou, le héros qui donne une autre image de la communauté et des sans-papiers. Tous les habitants de ce petit Bamako sur Seine ont vu et revu l'exploit réalisé par ce jeune homme arrivé en France il y a à peine 6 mois. Le maire de Montreuil, Patrice Bessac.
Nous sommes très très fiers. Il a montré à tous du courage, donc je vous propose de l'applaudir, de lui dire qu'on l'aime.
Mamoudou Gassama, qui n'a pas attendu les pompiers pour aller sauver un enfant et qui pourrait justement faire son service civil chez eux, chez les sapeurs-pompiers de Paris. Pour Amy, jeune montreuilloise, il en a toutes les qualités.
Ah oui, il mérite, c'est sûr, d'être pompier. Parce que toute la force est dans les bras et dans les jambes, on l'a bien vu. Hein. Donc je lui souhaite tout le bonheur du monde.
Tout le bonheur pour celui que certains surnomment affectueusement l'homme araignée, Spider-Man. Edwige, togolaise, sans papier.
J'ai eu les larmes aux yeux, c'est lui seul qui a eu le courage.
Mamoudou, ce héros.
Oui, c'est le héros, Superman.
Spider-Man ou Superman?
C'est les deux Spider-Man, Superman, tous les deux, oui.
Mamoudou Gassama, super-héros malgré lui, qui rappelle un certain Lassana Batilly, d'origine malienne lui aussi, et qui avait contribué à sauver des clients d'un hyper-cachère attaqué par un terroriste aux portes de Paris.
Alors, dès mardi, Mamoudou Gassama a été régularisé. Il va effectuer un service civique chez les sapeurs-pompiers de Paris. Il devrait recevoir d'ici un mois une carte de séjour de 10 ans avant d'être naturalisé français. Promesse d'Emmanuel Macron. Pierre Aski, qu'est-ce que vous inspire cette histoire? Est-ce que c'est normal de récompenser un héros national ou est-ce que c'est de l'hypocrisie, de la récupération politique éhontée, comme l'ont dénoncé les associations d'aide aux migrants?
C'est les deux. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il a fait un acte magnifique et il mérite d'être récompensé. Après, ça se passe dans un contexte où il y a un durcissement considérable de la politique migratoire et il y a quelque chose d'assez hypocrite à donner des papiers immédiatement à quelqu'un qui a fait quelque chose d'admirable et qui les mérite, mais à le nier à tous les autres qui sont pas moins héroïques dans leur vie. C'est pas à quoi on peut juger l'héroïsme. Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'ironie sur les réseaux sociaux en France autour de cette histoire. Il y a eu aussi des choses moins agréables avec du complotisme. Certains sont même passés à la télévision en France pour dire que tout ça était un coup monté. Il y a beaucoup de choses nauséabondes qui se passent autour de ces questions d'immigration en France. On le sait depuis très longtemps. Et effectivement, hélas, cette histoire en a réveillé quelques-unes. Mais bravo à lui, et il a été évidemment formidable et il mérite tout ce qui lui arrive.
Alors Pierre Aski, dans votre livre « Les années 50 et si la guerre froide recommençait », vous rappelez que le rejet des immigrés existait déjà en Europe comme aux États-Unis avec le Ku Klux Klan. Avec un leitmotiv, il faut défendre la civilisation blanche. Comment on explique cette montée à l'époque des mouvements extrémistes ?
En fait, il faut remonter aux années 30 parce que vous avez la racine de tous ces mouvements, c'est la vague des années 30 avec en Europe évidemment le nazisme, et vous avez une resurgence au lendemain de la guerre avec en France, il faut quand même s'en souvenir, ce slogan par exemple à une époque, la Corrèze plutôt que le Zambèze, donc occupons-nous des gens de chez nous plutôt que des gens qui sont loin. L'extrême droite en France, on a une photo qui est quand même intéressante où vous voyez un certain Jean-Marie Le Pen dans les années 50, dans les campagnes électorales. Alors, il n'est pas au premier plan, il est au deuxième plan parce qu'il était à l'époque le lieutenant de la personnalité d'extrême droite de l'époque. Mais ces gens-là existaient déjà. Donc, ces racines, elles remontent dans une filiation très longue d'un nationalisme ethnique européen.
Et aujourd'hui, les héritiers de ces idéologies radicales, on le voit en poupe, notamment en Europe, avec la Hongrie, la Pologne, l'Autriche et l'Italie.
Oui, alors l'Italie, c'est un cas qui vient de surgir des urnes italiennes et de ce nouveau gouvernement. Et c'est quand même la chose la plus inquiétante, je trouve, si on regarde ça du point de vue français, parce que l'Italie, c'est un des membres fondateurs de la communauté européenne qui est devenue par la suite l'Union européenne. On parle pas d'un pays d'Europe centrale qui aurait mal digéré son héritage communiste, etc. On parle d'un des pays fondateurs, le traité de Rome qui a donné naissance à l'Union européenne. On vient de fêter son anniversaire. C'est dans la capitale italienne. Et là, on a au pouvoir une coalition de l'extrême droite et d'un mouvement populiste plus difficile à définir, donc le mouvement 5 étoiles, avec un programme extrêmement dur sur l'immigration, et le ministre de l'Intérieur qui a été nommé dans ce nouveau gouvernement, c'est le leader de l'extrême droite. Donc je pense que il y a deux options en Italie, soit tout ça vole en éclats assez vite parce que c'est une coalition qui est faite de bric et de broc et qui a un programme qui a été réalisé dans les derniers jours pour pouvoir former un gouvernement. Soit, au contraire, ils réussissent à s'inscrire dans la durée et l'Europe a du souci à se faire.
On va revenir sur ce gouvernement fruit de laborieux compromis après le veto spectaculaire mis par le président Mattarella à la nomination en début de semaine d'un ministre des Finances anti-euro, Rome Anne-Lenir.
L'eurosceptique Paolo Savona a été retiré de la case du ministère de l'économie et des finances. Il devient secrétaire d'État aux affaires européennes, ce qui ne lui permettra pas de prendre de grandes décisions, car en Italie, ce poste est surtout honorifique. Et c'est un professeur d'économie, âgé de 70 ans, Giovanni Tria, qui obtient le portefeuille du Trésor. Giovanni Tria est en faveur du maintien de l'Italie dans l'euro, mais il est aussi proche de certaines idées de la Ligue de Matteo Salvini, qui lui hérite de l'intérieur. Disons qu'il est modérément europhile, à l'image du chef de file du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio, en charge du travail et du développement social. En fait, le plus rassurant des 18 ministres du premier gouvernement populiste en Italie, c'est un grand commis de l'État, Enzo Moavero, qui a travaillé pendant 20 ans à Bruxelles. Il prend la tête du ministère des Affaires étrangères et entend se porter garant du respect des institutions européennes et internationales.
Pierre Aski, est-ce que la crise italienne est aussi une crise européenne ?
Oui, bien sûr, parce que alors l'Italie, on a souvent coutume de dire, c'est le laboratoire politique de l'Europe. Mais c'est une crise européenne parce que d'abord, la vague populiste, elle est partout. Elle a atteint même l'Allemagne qui semblait jusque-là immunisée. Aujourd'hui, l'AFD, le mouvement populiste allemand, est le troisième parti du Bundestag, le Parlement allemand. Donc on voit bien qu'il y a partout cette vague-là. La France a échappé à son pouvoir lors de l'élection présidentielle, mais Marine Le Pen a quand même fait plus de 35% des voix au second tour. Donc on voit bien que tout le monde est touché, parce qu'il y a à la fois une défiance et une peur. Une défiance vis-à-vis d'une classe politique qui semble incapable de résoudre les problèmes concrets qui se posent au quotidien, ceux du chômage, ceux de la dette, de l'éducation, de la santé, qui aujourd'hui craquent un peu partout en Europe. Et la peur qui est celle de ce monde un peu inconnu dans lequel on plonge et dont la vague de réfugiés et d'immigration est venue comme un épouvantail agité par ces mouvements populistes. Et on voit bien que même dans des pays qui n'ont pas de présence de réfugiés ou de migrants, il y a ce fantasme qui pèse et qui fait le jeu aujourd'hui de ceux qui n'ont peut-être pas de réponse concrète à apporter, mais qui apportent au moins ce sentiment d'être ferme, d'être dur, d'avoir un leader fort et donc d'être peut-être plus à même de répondre à cette peur.
Genre Viktor Orban.
Viktor Orban en est l'incarnation, le président hongrois, qui aujourd'hui est le chef de file de ce qu'on a appelé le courant illibéral, donc le contraire de la démocratie libérale, et qui s'érige aujourd'hui en modèle pour le reste de l'Europe. Et on voit bien que certains de ces thèmes essayent d'être diffusés partout ailleurs. On a eu il y a 15 jours en France un magazine de la droite dure qui s'appelle Valeurs Actuelles, qui a fait sa une sur Soros, George Soros, qui est ce financier d'origine hongroise, qui est aujourd'hui américain, et qui est accusé de tous les crimes par Viktor Orban. Tout d'un coup, vous avez un magazine d'extrême droite français qui le met en avant en essayant d'importer cette peur et ces fantasmes sur ces financiers, cette finance de Wall Street qui, en gros, veut encourager l'immigration et le grand remplacement. Enfin, bref, tous les mythes que vous avez dans cette mouvance d'extrême droite et qui passent d'un pays à l'autre.
Alors l'Italie dans la tourmente, l'Espagne secouée par les scandales de corruption. Le chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy a été renversé hier par le Parlement après plus de 6 ans au pouvoir. C'est le socialiste Pedro Sanchez qui le remplace.
Sept jours dans le monde.
Direction la Colombie à présent, où le premier tour de la présidentielle a été remporté dimanche dernier par le candidat de droite, Iván Duque. Hostile aux accords de paix signés en novembre 2016 avec la guérilla des FARC, Iván Duque a obtenu 39% des suffrages contre 25% à Gustavo Petro, le candidat indépendant de gauche. C'est le centriste Sergio Fajardo, fort de ses 23%, qui va jouer les arbitres. Reportage dans les rues de Bogota, Véronique Guémard.
Ce lundi à Bogota, beaucoup commentent les résultats du premier tour de la présidentielle. Certains s'en réjouissent.
On a voté pour Duque et on a gagné. Et on espère que Duque sera le prochain président. Parce qu'on aime son programme et parce que Petro, c'est un gauchiste. Et nous, on n'est pas de gauche, on est de droite.
D'autres placent leurs espoirs dans l'alternative de gauche de Gustavo Petro, à l'instar de Santiago, déplacé du conflit de la région du sud-ouest où les tensions n'ont pas disparu. Il vend des beignets, des jus de fruits dans la rue.
Je suis content du résultat, car Petro est au second tour. Moi, je suis vendeur informel dans la rue, et quand il était maire de Bogota, il nous a beaucoup protégés. Et on espère qu'il en fera autant quand il sera président.
Moi, j'ai voté blanc, car aucun des candidats ne répondait à mes attentes. On pourrait revenir à une situation terrible avec ce que Duque a dit sur les accords de paix. Il veut revenir sur des points qui sont déjà actés, et ça ne me rassure pas.
L'enjeu, ce sera le report de voix, les alliances possibles, où se porteront les 23% de voix du centriste Sergio Fajardo.
Voter pour Fajardo.
Moi, j'ai voté pour Fajardo. Maintenant, ces voix vont aller vers Duque. C'est ce que je vais faire. Pour moi, les jeux sont faits. Le président, ce sera Duque. Il n'y aura pas d'autre issue.
Pour l'instant, Sergio Fajardo n'a donné aucune consigne. Certains estiment qu'une majorité de ses voix pourrait en effet se porter sur le candidat de droite, Ivan Duque. Le jeu des alliances ne fait que commencer pour le second tour du 17 juin prochain.
Pierre Aski, un chapitre de votre livre s'intitule « Le temps des révolutions sud-américaines sous la botte des dictatures ». C'est le Guatemala en 1954 qui va le premier faire les frais de la volonté américaine de soutenir des dictatures fascisantes ou des régimes paramilitaires plutôt que des régimes progressistes. Mais en fait, l'épouvantail communiste n'était qu'un prétexte pour les États-Unis.
En fait, vous avez pendant cette période des années 50 l'ombre de la guerre froide qui s'étend dans le monde entier. Et donc, on colore partout les conflits qui sont souvent des conflits locaux ou des enjeux locaux sous cette étiquette de guerre froide, de poussée communiste, de risque de voir débarquer l'Union soviétique. Et on le voit en Asie, on le voit en Afrique et on le voit en Amérique latine. Et ça sera encore plus manifeste, évidemment, avec la victoire de Fidel Castro à Cuba, qui clôt cette décennie en 1959.
Fidel Castro, et vous le rappelez, qui n'avait pas de penchant spécialement communiste quand il est entré à la Havane en 1959.
Non, c'est le grand paradoxe, c'est que on peut imaginer une autre histoire avec un Fidel Castro, certes penchant à gauche, mais d'abord un nationaliste cubain qui veut nettoyer ce pays qui était aux mains de mafia et des intérêts d'argent. Or, l'attitude des Américains à la victoire de Castro les a poussés dans les bras des Soviétiques. Les Soviétiques qui n'étaient pas ravis, par exemple, de voir Che Guevara prôner la révolution partout en Amérique latine. La stratégie menée par Castro et Guevara au début ne correspondait pas du tout à ce que les Soviétiques espéraient. Après, ils sont rentrés dans le rang et il y a eu cette alliance et on a failli même avoir une guerre nucléaire autour de Cuba au début des années 60. Mais on peut imaginer que dans d'autres parties du monde aussi, des conflits qui n'étaient pas nécessairement des conflits de guerre froide ont été entraînés dans cette logique par l'aveuglement des super grands de l'époque.
Alors quand vous comparez l'Amérique latine des années 50 à l'Amérique latine d'aujourd'hui, là vous parlez de rupture puisque Donald Trump n'a aucun projet pour le continent, si ce n'est de construire son fameux mur.
De bloquer l'immigration, voilà, avec son mur avec le Mexique.
À la frontière avec le Mexique.
Où là on retrouve déjà des vieilles rengaines des républicains des années 50 qui étaient contre l'immigration et qui refoulaient les Mexicains à la frontière. Mais c'est vrai que là, Trump s'inscrit en complète rupture. Trump n'est pas dans cette grande tradition américaine de considérer l'Amérique latine comme
le précaré,
l'interland, etc. C'est un des quelques paradoxes de Trump, mais c'est pas le seul.
Alors Donald Trump qui a déclaré hier la guerre de l'acier en décidant de taxer les importations d'acier et d'aluminium en provenance de l'Union européenne, du Canada et du Mexique justement, à Washington, Anne Corpet.
Pour Donald Trump, et je le cite, un pays qui ne produit pas lui-même son acier et son aluminium n'est pas un pays. Le président américain estime que les États-Unis doivent pouvoir fabriquer des navires, des avions ou des tanks sans avoir recours à de l'acier produit à l'étranger. Et c'est donc pour relancer l'industrie sidérurgique qu'il a pris cette mesure. Elle correspond aussi à une promesse électorale. Le président entend soutenir les travailleurs d'un secteur sinistré qui l'ont d'ailleurs porté au pouvoir. Donald Trump ne craint pas les mesures de représailles. Les guerres commerciales sont bonnes et faciles à gagner, avait-il tweeté en mars dernier. Le secrétaire au commerce a lui aussi minimisé l'impact de la riposte annoncée en estimant qu'elle n'allait peser que de manière marginale sur l'économie américaine.
Alors cette décision américaine est illégale, a réagi Emmanuel Macron, tandis que la chancelière allemande Angela Merkel s'est alarmée d'une escalade qui nuira à tout le monde. En tout cas, les Européens vont préparer la riposte. Est-ce que cette riposte sera à la hauteur, Pierre Aski ?
Je crains que non. J'ai l'impression que l'Europe aujourd'hui n'est pas en mesure d'afficher à la fois la volonté politique commune et le muscle suffisant pour faire face à tous les défis, à toutes les couleuvres que lui fait avaler Donald Trump. Souvenons-nous qu'on est quand même à peine quelques semaines après sa décision sur l'Iran, qui force unilatéralement les entreprises européennes à quitter le marché iranien.
Faute de quoi elles se retrouveraient sanctionnées par Washington.
Total a été contraint, donc la compagnie française pétrolière a été contrainte de choisir entre le marché américain et le marché iranien, et a évidemment choisi les États-Unis où il y a des investissements considérables. Et l'Europe n'a pas aujourd'hui cette capacité de faire face. Or, Donald Trump lui adresse un défi énorme. Angela Merkel a déclaré il y a quelques semaines à Aix-la-Chapelle, quand on remettait le prix Charlemagne à Emmanuel Macron, elle a déclaré le temps où l'Europe pouvait se sentir protégée par les États-Unis est révolu. Sauf que cette Europe, aujourd'hui, est plutôt mal en point et incapable de montrer la cohérence qu'il lui faudrait.
Alors, s'il est un pays pour lequel Donald Trump a un projet, c'est la Corée du Nord, qu'il veut voir dénucléariser. C'est tout l'enjeu du sommet prévu en principe ce mois-ci à Singapour, avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Kim Jong-un qui a envoyé son bras droit, Kim Yong-chol, jeudi à New York, discuter avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Une visite suivie de très près par la Corée du Sud. À Séoul pour RFI, Frédéric Ojardias.
Kim Yong-chol est à New York pour finaliser l'ordre du jour du sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord, assure ce matin le quotidien sud-coréen Chungang. Le journal fait remarquer qu'il s'agit de la première visite aux États-Unis depuis 18 ans d'un Nord-Coréen de rang aussi élevé. Le bras droit de Kim Jong-un doit discuter avec le secrétaire d'État Mike Pompeo du point crucial de cet hypothétique sommet. Quelles concessions nucléaires le régime est-il prêt à faire et en échange de quelles garanties américaines concernant sa survie et sa sécurité? Pyongyang souhaite une approche par phase, faite de concessions graduelles et d'allègement des sanctions, alors que Washington veut un démantèlement d'un seul bloc et le plus rapide possible. Des négociations scrutées à la loupe par une Corée du Sud très inquiète des retombées en cas de non-accord. Ces différences de position restent significatives, a reconnu hier Cho Myung Gyo, ministre sud-coréen de la réunification. Séoul affiche cependant un optimisme prudent. Les chances de trouver un terrain d'entente sont élevées, a conclu le ministre.
Pierre Aski, la guerre de Corée qui éclate le 25 juin 1950, quand les troupes du Nord envahissent le Sud, a été le premier conflit de la guerre froide.
Oui, tout à fait. Et là encore, comme on disait tout à l'heure sur l'Amérique latine, il y a une dimension locale dans ce conflit. Kim Il-sung va convaincre Staline et Mao de le laisser attaquer la Corée du Sud parce qu'il pense non seulement qu'il n'en fera qu'une bouchée parce qu'il a une armée plus puissante, mais aussi que les Américains ne bougeront pas. Et il commet une erreur. Mais les Américains bougent parce qu'ils pensent que c'est Staline qui a donné l'ordre d'attaquer et que c'est le début d'une grande offensive du bloc communiste qui commence en Corée mais qui se poursuivra ensuite à Berlin. Donc on est dans une erreur d'analyse et une erreur d'interprétation des intentions et des motivations de l'autre camp. Cette guerre a été terrible. Elle a été bien plus dure que tout ce qu'on imagine. Les Américains ont subi en Corée des défaites terribles quand l'armée chinoise est arrivé. Il y a eu des contre-attaques. Ça a duré 3 ans. Ça a été une des guerres les plus cruelles parce que on était dans cette période de l'immédiate après Seconde Guerre mondiale et les armements étaient encore extrêmement traditionnels. Et à un moment, MacArthur, qui était le commandant du corps expéditionnaire américain, a même voulu lancer la bombe atomique sur la Chine. Et c'est le Washington qui l'en a empêché. On est allé très loin dans cette guerre parce que tout le monde pensait que c'était la clé du contrôle du monde, ce qui est paradoxal par rapport à la position géographique et à l'enjeu stratégique coréen, mais tous les fantasmes de ce début de guerre froide dont on ne savait pas si ça allait rester une guerre froide ou si ça allait être l'affrontement final entre les deux blocs ont été résumés dans ce conflit et ça a été extrêmement violent et ça explique aussi une partie des attitudes d'aujourd'hui aussi bien du côté américain que du côté nord-coréen.
Et vous pensez qu'il peut sortir quelque chose de positif du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un?
Personnellement, je suis extrêmement sceptique parce que il n'y a pas de définition commune aujourd'hui du mot dénucléarisation et je ne vois pas comment Kim Jong-un peut accepter d'abandonner totalement l'arme nucléaire, qui est un rêve qui est poursuivi depuis son grand-père, que son père a ensuite développé de manière extrêmement intense et que lui a amené à un stade beaucoup plus avancé. Les Américains pensent, et Trump pense, qu'il peut proposer un chèque, en gros, de l'aide économique. Il leur a dit dans des tweets « Avec moi, vous serez riches. La Corée du Nord va devenir prospère. » Mais l'enjeu n'est pas là pour Kim Jong-un. C'est la survie de son régime, c'est l'assurance vie de son régime, c'est cette arme nucléaire qui lui donne un ascendant sur la Corée du Sud, qui lui donne même aussi une arme de négociation pour tenir tête à la Chine, avec laquelle il est certes allié, mais de manière extrêmement ambiguë et pas toujours très convaincante. Et donc c'est impossible pour lui aujourd'hui d'abandonner cette arme, et je pense qu'on est dans un marché de dupes. Les deux parties ont intérêt à ce que ce sommet se fasse et qu'il y ait de belles photos. Trump a besoin de ce succès et Kim également. Mais de là à avoir des résultats concrets de dénucléarisation, je pense qu'on a encore du chemin à faire.
Une semaine d'actualité.
Une semaine marquée par une histoire rocambolesque. Tout a commencé mardi avec l'annonce en Ukraine de l'assassinat d'Arkady Babchenko, journaliste russe en exil à Kiev et très critique vis-à-vis du Kremlin. Coup de théâtre mercredi quand Arkady Babchenko réapparaît lors d'une conférence de presse. Sa mort n'était qu'une mise en scène qui aurait permis de déjouer une tentative de meurtre, réelle cette fois contre lui et orchestrée par la Russie. Moscou n'a pas apprécié, comme l'expliquait jeudi notre correspondant en Russie, Daniel Valot.
Sans surprise, la Russie dénonce une machination et une provocation anti-russe, c'est la formule utilisée hier soir dans un communiqué par le ministère des Affaires étrangères. De fait, cette affaire est une aubaine pour Moscou, quelle que soit la réalité de son implication dans le complot que l'Ukraine affirme avoir déjoué. Car les autorités russes n'ont cessé ces dernières années de dénoncer les fausses informations qui seraient utilisées à son encontre dans le conflit qu'il oppose à l'Ukraine. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont également très critiques à l'encontre de l'Ukraine et pas seulement parmi les proches du Kremlin. Il faut dire qu'hier, de nombreuses personnalités de l'opposition et de nombreux journalistes indépendants s'étaient exprimés pour rendre un hommage souvent poignant à Arkady Babchenko alors qu'il le croyait mort. La nouvelle de sa résurrection a donc été accueillie avec soulagement bien sûr, mais aussi très vite avec une pointe d'amertume et parfois même de colère. Nombre de journalistes déplorent en effet que cette macabre mise en scène porte un coup très dur à leur crédibilité.
Pierre Aski, vous êtes président de Reporters sans frontières. Je suppose que pour vous aussi, cette histoire ahurissante est un sale coup pour la crédibilité de la presse.
Oui, je pense que c'est une erreur considérable qu'a commis l'Ukraine, ou en tout cas les services secrets ukrainiens, en montant cette opération, parce que ils ont, en football, on appellerait ça marquer contre son camp, c'est-à-dire ils ont donné une victoire à la Russie sans même qu'elle ait besoin de se battre pour l'obtenir. La confiance, c'est la clé pour lutter contre les guerres de l'information et de la manipulation qui se déroulent depuis un certain temps déjà, et en particulier dans cette zone autour de la Russie. La Russie a beau jeu de dire maintenant que toutes les informations qui l'accusent de ci ou de ça seront des manipulations des services secrets ukrainiens ou autres. C'est ahurissant et les premières victimes ont été effectivement, comme l'a dit ce reportage, notamment les journalistes indépendants en Russie. J'en connais un, Andrei Soldatov, qui sur son compte Twitter était effondré en disant on a franchi allègrement une ligne rouge dans cette affaire, et il y a une mise en cause de la crédibilité aujourd'hui des journalistes qui est un cadeau fait au Kremlin.
Et ça pose aussi un problème pour la presse ici, puisque Arkady Babchenko était en photo à la une du Monde jeudi avec ce titre « Vive émotion après le meurtre d'un journaliste russe à Kiev ». Donc maintenant, il va falloir aussi vérifier les informations qu'on pense officielles.
Le problème, c'est que ça venait d'une source extrêmement officielle, puisque c'était les services ukrainiens. et que c'était plausible, puisque ça arrive dans une dans un contexte après l'attentat contre un ex-agent russe en Angleterre, et donc les médias se retrouvent tout d'un coup complètement pris au dépourvu, parce que une source aussi officielle qui se révèle fausse, ou en tout cas vraie fausse information, c'est vraiment une claque à la liberté de la presse qui a été envoyée par l'Ukraine, en pensant bien faire sans doute, et en affirmant que c'était pour déjouer un vrai complot là contre Babchenko, mais pour lequel ils n'ont apporté aucune preuve. Donc il y a une vraie crise de confiance qui a été créée par cette affaire, qu'il faudra du temps et beaucoup d'efforts pour surmonter.
L'actualité africaine à présent, avec cet accord trouvé mardi à Paris pour organiser des élections législatives et présidentielles en Libye le 10 décembre prochain. Accord oral uniquement entre les quatre principaux acteurs du conflit. Gaëlle Lalex.
Accepté, mais pas signé. Aucun des acteurs de la réunion d'hier n'a souhaité paraffer l'accord trouvé à l'Élysée. Officiellement, ils souhaitent d'abord le soumettre à ceux qu'ils représentent en Libye. Certains y voient aussi le signe d'un profond manque de confiance. Pour Emmanuel Macron, il s'agit juste de bon sens pragmatique.
Vous aviez là des présidents d'institutions qui ne se reconnaissent pas mutuellement. Donc, nous avons trouvé cette formule qui consiste, plutôt qu'à s'entêter à chercher une déclaration insignable par des gens qui ne se reconnaissent pas, à les faire d'abord se rencontrer et avoir une approbation formelle qui les engage. Ils se sont tous engagés à œuvrer selon ce calendrier.
Selon l'accord, les protagonistes doivent d'ici le 16 septembre avoir pris des dispositions pour permettre la tenue de l'élection présidentielle de décembre prochain. En clair, il leur faut adopter une nouvelle constitution. Ghassan Salamé, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, estime que le défi est colossal.
Trois possibilités. Ou un référendum sur le texte adopté le 29 juillet 2017, ou une révision de la déclaration constitutionnelle de 2011, ou alors l'extraction du projet constitutionnel des partis qui concernent l'élection et les compétences du président et de leur application immédiate en attendant l'adoption du référendum à plus long terme.
Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, trois textes constitutionnels ont été rédigés. Le dernier, celui de juillet 2017, n'a toujours pas été adopté.
Autre pays où les défis ne manquent pas à deux mois de la présidentielle, le Mali, où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a passé deux jours cette semaine. Il en est parti le cœur réchauffé à Bamako, Serge Daniel.
Au cours de son séjour à Bamako, le secrétaire général des Nations Unies a fait passer trois messages clairs. Antonio Guterres.
Nous vivons un moment clé dans la vie du Mali. Nous avons trois chantiers très importants. La concrétisation totale des accords de paix. Le deuxième chantier, les élections transparentes et le projet du gouvernement de sécuritarisation de la région centrale.
Un projet essentiel pour l'unité du Mali, ajoute le diplomate tunisien qui s'est rendu au centre du Mali. Sur place à Sévaré, il a visité le quartier général de la force Sahel G5.
Notre solidarité avec le G5 Sahel est une solidarité sans réserve et je tiens à exprimer toute ma solidarité et mes voeux pour un grand succès de cette opération.
Il a promis l'appui de son institution aux cinq pays du Sahel qui mobilisent leurs troupes pour lutter contre le terrorisme.
Nous avons proposé des formes de financement assurées, garanties, qui puissent permettre à la force une planification sans difficulté de son action future.
Mais à Sévaré, le secrétaire général des Nations Unies a également reçu des représentants de la société civile locale et d'associations. Un de ces messages, le tout sécuritaire seul ne peut pas résoudre les problèmes, il faut le développement.
Pierre Asquier, est-ce que la politique africaine d'Emmanuel Macron, jusqu'à présent, vous semble en rupture avec celle de ses prédécesseurs ?
Il a essayé de rompre avec le tout sécurité qui avait surtout marqué la période de François Hollande, qui a été l'homme qui a envoyé l'armée au Mali pour bloquer cette colonne djihadiste. Pour l'instant, elle est pas encore véritablement convaincante. On a une tentative de redéfinir cette politique africaine. Emmanuel Macron joue sur le fait qu'il est plus jeune, qu'il n'a pas le passif et les racines avec ce qu'on a appelé la France-Afrique. Il essaye de nouer un dialogue avec la jeunesse, comme il l'a fait à Ouagadougou lors
avec un langage très direct.
Voilà. Pour l'instant, c'est pas convaincant. On n'a pas encore une nouvelle nouvelle politique africaine de la France, et on n'a pas non plus du côté africain une nouvelle perception d'une France qui serait radicalement différente de ce qu'elle a été. Donc voilà, ça fait un an, c'est encore un peu court, mais c'est un peu la caractéristique de beaucoup d'initiatives d'Emmanuel Macron en politique étrangère, où il essaye de déployer des nouvelles formes d'organisation ou de discours ou de méthodes tous azimuts. On l'a entendu tout à l'heure avec la Libye, il a essayé avec Trump, etc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, les résultats ne sont pas au rendez-vous, parce que le monde d'aujourd'hui est effectivement beaucoup plus complexe que le simple discours d'un homme politique, et la taille et l'influence de la France sont effectivement limitées.
Je reviens aux années 50 en Afrique. Quel rôle ont-elles joué dans la marche des pays colonisés vers l'indépendance ?
Alors c'est évidemment au cours des années 50 que se noue cette marche vers l'indépendance, qui naît de fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les germes de ces indépendances se retrouvent à ce moment-là, cette nouvelle génération, c'est l'accès à l'éducation. Vous avez, par exemple, dans les années 50, à Paris, vous avez tout ce vivier de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire, dans laquelle on va trouver des futurs chefs d'État ou des futurs cadres des pays indépendants. Et vous avez les premières indépendances qui se font jour, le Ghana.
Maroc, Tunisie.
Oui, Maroc, Tunisie, évidemment, mais aussi en Afrique noire, le Ghana, le premier, avec Kwame Nkrumah, qui est une des grandes figures du panafricanisme. Donc, oui, tout est là, en fait, en germe, dès les années 50, et c'est en 1960 que, en tout cas en Afrique francophone, que la plupart des pays accèdent à l'indépendance, qu'on a De Gaulle, qui arrive aux affaires en 58, avec son fidèle Jacques Foccart dans l'ombre, et qui met en place cette politique africaine où, en gros, on donne les indépendances, mais on reste quand même très, très, très présent au cœur des appareils d'État.
On revient à l'actualité française avec la disparition à 93 ans de Serge Dassault, capitaine du fleuron de l'industrie française, Dassault Aviation, mais aussi patron de presse et homme politique, Anne Souhaitement.
Chez les Dassault, tout est affaire de famille. C'est d'ailleurs auprès de son père, Marcel, que Serge Dassault commence une carrière d'ingénieur au sein de l'entreprise familiale L'Avionneur Dassault, dont il prendra les commandes en 87. Pour vendre ses avions, Serge Dassault pourra compter sur plusieurs présidents, Chirac, Sarkozy, Hollande ou Macron, qui jouent souvent les VRP à travers le monde. Comme son père, Serge Dassault s'était parallèlement lancé en politique. Ultralibéral, contre le mariage pour tous, il combat les 35 heures et les syndicats. En 95, il devient maire de Corbeil-Essonne. C'est une dizaine d'années plus tard que les ennuis commencent. Sa réélection est contestée. L'opposition l'accuse d'avoir acheté des voix. Serge Dassault perd son mandat de maire, mais il reste sénateur. Il devait être jugé la semaine prochaine en appel pour blanchiment de fraude fiscale. Serge Dassault fut aussi patron de presse, comme son père là aussi. Depuis 2004, il était le propriétaire du Figaro. Sa succession politique est déjà en route. Olivier, son aîné, est actuellement député. Marie-Hélène Habert, sa fille, préside elle le conseil de surveillance du groupe Dassault.
Une semaine d'actualité. Pierre Aski, je voudrais qu'on parle un petit peu du Proche-Orient. Est-ce qu'aujourd'hui la guerre froide est de retour au Proche-Orient ?
Alors je pense qu'elle est différente, mais avec des points communs. Prenez la Syrie. On s'est demandé pourquoi la Russie s'impliquait à ce point en Syrie. Il faut se souvenir que le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, est un officier formé en Russie, par le russe, comme tous les officiers supérieurs de l'armée syrienne, et que il y a en Syrie le seul port d'accès à la Méditerranée pour la flotte soviétique hier, russe aujourd'hui. Donc on a une présence historique, c'est le premier pays où l'Union soviétique a pris pied dans le monde arabe, et qui est effectivement clé cruciale pour la stratégie russe. Ce qui a changé aujourd'hui par rapport à la période de la guerre froide, ça c'est l'élément fixe, c'est-à-dire la présence russe. Ce qui a changé, c'est que les grandes puissances, que ce soit la Russie ou les États-Unis ou les puissances européennes, si on veut, ne dictent plus totalement la loi dans cette région. Vous avez des puissances régionales, que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Iran, ou la Turquie. Qui sont aujourd'hui des acteurs majeurs et assez largement autonomes, qui n'obéissent pas, en tout cas, au doigt et à l'œil à ces grandes puissances qui, hier, avait la clé de tous ces conflits.
Mais vous dites que la ligne de fracture aujourd'hui est essentiellement religieuse.
Alors il y a eu effectivement une montée du sentiment religieux parce que des années 50 jusqu'aux années 70, vous aviez une poussée du nationalisme arabe qui a pris ensuite des formes d'un socialisme mal digéré en Irak ou en Syrie et épouser les contours de la guerre froide. Aujourd'hui, il est clair que la ligne de fracture, en tout cas principale, elle est entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et elle prend ses racines. C'est pas la seule cause, et c'est loin d'être la seule cause, mais dans le schisme religieux au sein de l'islam. Et on l'a vu aussi avec cette poussée du djihadisme, qui est cette tentative de revenir à un islam pur des origines, etc. Donc, on a changé effectivement la nature du conflit, mais malgré tout, il y a quelques éléments qui restent solidement ceux de l'histoire, que ce soit dans le rôle de la Russie, dans le conflit israélo-palestinien, dans le rôle de l'Amérique qui est devenu le parrain d'un certain nombre de pays.
Alors, beaucoup plus léger, on va terminer par cette douche froide et même glacée pour les supporters du Real Madrid. 5 jours après avoir remporté sa 3e Ligue des Champions comme entraîneur, Zinedine Zidane a annoncé jeudi à la surprise générale qu'il quittait son poste et le club où il a tout réussi.
Il y a un moment qui se vit, on le vit à fond, pleinement. Et à un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter et se dire que ce que je veux pour le bien aussi de cette équipe, de ce club, c'est que je veux qu'il continue à gagner. Et je pense sincèrement qu'avec moi, ça aurait été peut-être compliqué par rapport au championnat, par rapport à la coupe. Il y a eu des bons moments, mais des moments difficiles. Oh. Et moi, je les oublie pas, ces moments difficiles. Et quand tu es dans ce club, il faut juste le savoir. Et si c'est pour vivre une autre saison avec des moments où à la fin ça se passe pas bien, non, je veux pas ça moi. Moi ce club je l'ai dans mon cœur. Cette étape elle se termine, elle s'est terminée bien quand j'étais joueur. Elle se termine bien quand je suis entraîneur et ça sera toute la vie comme ça. Et donc ça c'est mon intelligence pour dire que c'est le moment.
Pierre Aski, le sport a été un instrument très important pendant la guerre froide.
Oui, en fait, on oublie, on pense souvent en termes militaires ou stratégiques. Il y avait aussi la guerre froide qui a tout contaminé d'une certaine manière, que ce soit l'art contemporain ou le sport, en effet. Il faut quand même se souvenir des efforts qui ont été faits par les pays de l'Est en particulier pour être présents, pour avoir des champions qui pouvaient être des héros nationaux qu'on pouvait exhiber au reste du monde, souvent au prix de dopage, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces choses-là restent. Aujourd'hui, vous avez la Chine. Moi, j'étais à Pékin au moment des Jeux Olympiques de 2008. Quel était l'enjeu pour la Chine ? C'était de dépasser les États-Unis en nombre de médailles d'or. Et ils y sont arrivés en mettant des efforts absolument considérables. Donc, il y a toujours cet aspect qui, à la fois, dope le nationalisme, mais aussi permet à un système politique de prouver sa légitimité en disant, vous voyez, on gagne des médailles, on est les meilleurs, on est les plus forts. Et ça, c'est quelque chose qui était très fort pendant la guerre froide et qu'on retrouve aujourd'hui, ce moteur du sport comme support de à la fois du nationalisme, mais aussi d'aspiration idéologique.
Merci beaucoup Pierre Aski d'avoir été notre invité. Je renvoie nos auditeurs à votre livre « Les années 50 et si la guerre froide recommençait » coécrit avec Pascal Blanchard et Farid Abdelwahab et publié aux éditions de La Martinière. Merci à Vanessa Rovensky qui a réalisé cette émission et à vous qui nous écoutez. Demain, vous retrouverez Pierre-Edouard Deldic pour le magazine Idée. Ce sera à 17h10, heure de Paris. Bon week-end. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.